Le journal est présenté par François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. Romain Cher brigue l'investiture de l'UDC Jura dans la course au gouvernement. Le député maire de La Baroche va ainsi proposer un choix face à la candidature déjà annoncée de Frédéric Richneck. Aider l'Ukraine à se reconstruire, c'est l'une des missions de Jacques Gerber. L'ancien ministre jurassien a pris ses fonctions de délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine au début de l'année. Entretien à suivre dans ce journal. En football, Loulzi Mouchi continuera à entraîner le FC Basse-Cour. Le technicien Vadet et l'équipe de Première Ligue ont signé une entente pour une saison supplémentaire. Loulzi Mouchi est en poste depuis avril 2024. Météo, des passages nuageux étendus ce soir et dans la nuit, mais le temps devrait rester sec. Le ciel nous réservera encore quelques éclaircies demain matin, mais des averses sont prévues par la suite. L'UDC Jura devra choisir, en vue des élections cantonales du 19 octobre prochain pour le gouvernement, deux candidats se sont annoncés pour figurer sur le ticket unique voulu par le parti agrarien. Quelques heures avant l'échéance fixée aujourd'hui à midi, Romain Cher a annoncé qu'il se présentait. Frédéric Richneck en avait fait de même en mars. Romain Cher, 56 ans, a dirigé l'UDC Jura durant 11 ans. Ingénieur de formation, il est aujourd'hui député et maire de La Baroche. Le président de la section Ajoie et Claude Dudoux de l'UDC se réjouit de pouvoir proposer un choix de personne au délégué du parti, John Moser.
La base de l'UDC Jura aura le privilège de choisir le candidat qu'elle souhaite voir pour conquérir ce siège au gouvernement jurassien fin octobre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui on a deux candidats de profils, de styles différents qui seront proposés?
Je pense deux styles très différents, mais en même temps avec une expérience assez similaire. On voit quand même que les deux candidats ont une expérience politique, une large expérience politique. D'un côté, on a une expérience peut-être un peu plus forte par rapport à l'administration, même que les deux ont connu de l'administration. Et c'est vrai que M. Cher a peut-être cet avantage de vraiment faire partie du privé, où il a une entreprise, où c'est clairement un avantage aussi d'avoir une expérience autre que d'administration ou du politique.
Des propos recueillis par Régis Cerf, l'UDC Jura se prononcera le 22 mai prochain. Des perturbations ont eu lieu aujourd'hui sur l'autoroute A16. Les tunnels de Neubois ont été fermés cet après-midi. Le tube de la voie France a toutefois rapidement pu être rouvert, alors que celui de la voie Berne a été fermé pendant environ une heure. En cause, un dégagement de fumée provoqué par deux véhicules en panne. La police cantonale jurassienne s'est rendue sur place ainsi que plusieurs véhicules de secours. Le Vatican a levé le voile aujourd'hui sur les dernières heures du pape François. Des éléments ont été apportés par le média officiel du Saint-Siège. Vatican News affirme que le pape François a remercié son infirmier personnel de l'avoir encouragé à retourner dimanche sur la place Saint-Pierre. Le souverain pontife a présenté les premiers signes d'un malaise lundi, donc hier, vers 5h30 du matin. Il est tombé dans le coma plus d'une heure plus tard avant de mourir d'un accident vasculaire cérébral à 7h35. Les funérailles du pape François auront lieu samedi dès 10h. Les gardes suisses poursuivent quant à eux leur mission durant ces jours de deuil et encadrent la dépouille mortelle du pape. Le jurassien Tanguy Ackermann a servi le pape François durant 2 ans entre 2018 et 2020 et témoigne de l'image qu'il en gardera.
Il avait ce don d'avoir une vraie écoute, une vraie empathie pour la personne qui était en face de lui. Pour les gardes suisses, il avait une véritable attention. J'ai pas d'autre exemple que celui du grand-père. Il ne passait pas devant nous sans nous dire bonjour. Quand on faisait la garde de nuit devant sa porte, on était la première personne qu'il voyait le matin. Il venait nous dire bonjour, il s'assurait qu'on ait toujours un peu des biscuits à proximité pour tenir le coup. Et il avait toujours une attention, il nous donnait même un livre chaque matin. Il se souvenait aussi de notre langue maternelle. La première fois, il nous dit « Quelle langue parles-tu ?» La fois suivante, il se souvient, pour ma part, que j'étais de langue française.
Tanguy Ackermann, vous avez vécu plus de 2 ans au service du pape François, mais finalement, quel service, quels enseignements il vous a donné, lui, si vous deviez citer un moment, le moment?
Mais c'est une attention pour l'autre et vraiment une vraie disposition, un vrai don de sa personne à l'Église et aux autres.
Tanguy Ackermann était interrogé par Cyprien Lovi. Le Centre culturel de la Prévôté tient sa nouvelle animatrice programmatrice. Janine Gretler a été nommée à ce poste. La Suissesse de 52 ans est actuellement établie à Bruxelles et prendra ses nouvelles fonctions en septembre prochain. Sa nomination fait suite au départ à la retraite de Brigitte Collin, qui occupe le poste depuis 2011. Avec le choix de Janine Gretler, le Centre culturel de la Prévôté souhaite affirmer un virage vers une programmation et des actions de médiation dédiées aux jeunes publics. public. Les préparatifs vont bon train en vue de la 8e fête de la Tête de Moine qui se tiendra du 2 au 4 mai prochain à Bellelay. Au programme concours de fromage, fondue géante, brunch, musique ou encore humour. La partie officielle se déroulera le samedi en présence de la marraine de la fête, la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider. Le célèbre fromage de Bellelay, comme d'autres produits helvétiques, s'interroge sur le potentiel impact des taxes douanières américaines sur ses exportations. Le gérant de l'interprofession de la Tête de Moine donne davantage d'explications, Martin Siegenthaler.
On a plus ou moins 3000 tonnes, on a 1800, 1900 tonnes qu'on exporte. On a pour l'instant malheureusement seulement 78 tonnes, alors ça veut dire 2-3%. Pour l'instant, ça ne nous touche quasiment pas. Bien sûr, on garde chaque jour les nouvelles qui arrivent. Mais c'est un peu dommage parce qu'on a espéré que maintenant ça décolle, on peut profiter de ce nouveau marché. Je pense que les prochains 3-4 ans, ça va un peu plus compliqué, mais on n'a pas tout perdu. On a seulement 2 tonnes de recul les premiers mois. Alors on reste optimiste. Et puis je pense que ces 78 tonnes de quand même garder une grande partie cette année malgré les circonstances politiques autour. J'espère toujours qu'ils trouvent une solution au niveau diplomatique et puis politique.
Un nouveau défi professionnel a démarré au début de l'année pour Jacques Gerber. L'ancien ministre jurassien est devenu délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine avec le statut d'ambassadeur. Jacques Gerber rentre d'une mission de 2 semaines sur place dans le pays en guerre. L'ancien élu PLR a pour mission de coordonner l'aide suisse à l'Ukraine au niveau humanitaire mais aussi dans la perspective de la reconstruction du pays. Jacques Gerber précise les conditions faites aux entreprises suisses qui veulent bénéficier du soutien de la Confédération pour travailler en Ukraine. Il s'agit de s'intégrer un vaste mouvement puisque la Suisse ne rebâtira pas le pays à elle seule, Jacques Gerber.
Non, effectivement, et je pense qu'aucun pays peut seul reconstruire l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine à se reconstruire et dans une définition globale de la reconstruction. Il y a bien sûr la reconstruction d'infrastructures, de routes, d'écoles, d'hôpitaux, mais il y a également toute la reconstruction de la société, aider les gens avec des problèmes psychologiques, aider à construire des centres de réadaptation pour des victimes de guerre. C'est vraiment une notion globale de la reconstruction auquel la Suisse entend apporter son soutien. C'est vraiment l'objectif du programme Ukraine. Ce n'est pas simplement aider des entreprises suisses à aller augmenter leurs affaires en Ukraine. Nous aiderons uniquement des entreprises qui répondent à des besoins avérés de la part des Ukrainiennes et des Ukrainiens et le gouvernement sera garant de cela. Il fait partie de nos comités de sélection des projets. Et c'est également un de mes rôles de faire prendre conscience du bon niveau de risque d'investir en Ukraine et en même temps d'offrir des instruments pour permettre justement que l'investissement puisse se faire. Sans l'aide de l'État, par exemple, Nestlé n'a pas quitté l'Ukraine, au contraire. Ils ont investi plusieurs dizaines de millions dans une nouvelle usine tout près de Lviv, qui est en activité aujourd'hui. Et sur nos 70 entreprises suisses qui étaient actives avant la guerre à grande échelle en Ukraine, elles sont quasi toutes restées.
Est-ce que la concurrence fonctionne à ce niveau-là? Est-ce que d'autres pays font la même démarche que la Suisse et invitent leurs entreprises à tout le moins occuper le terrain en Ukraine, voire s'y développer?
Peut-être de manière beaucoup plus agressive que la Suisse ne le fait, parce qu'une fois encore, nous ne sommes pas dans une approche d'aller faire du business en Ukraine. Nous sommes dans l'approche de soutenir des entreprises qui peuvent aider l'Ukraine à se reconstruire. Mais j'ai participé à des séances où d'autres pays mentionnaient dans leurs interventions que « it's time to make business in Ukraine ». Ce n'est pas l'esprit du programme suisse. Par contre, au niveau de produits, au niveau d'innovation, au niveau peut-être de complément à un site avec de la formation de jeunes, on aidera ce pays à se reconstruire et c'est dans cette direction que s'oriente l'aide de la Confédération.
Vous avez évoqué le cas de Nestlé. On doute que Nestlé aille faire de la philanthropie du côté de l'Ukraine, non?
Ce n'est pas ce qui est demandé à Nestlé. Toutes les entreprises, dans une démarche traditionnelle qui veulent aller en Ukraine développer leur activité, bien sûr, sont libres de le faire, sont même invitées à le faire. Le programme suisse est très spécifique et va aider les entreprises qui ont des projets qui s'inscrivent dans les besoins prioritaires définis d'abord par le gouvernement ukrainien. Ils ont actuellement une plateforme qui permet justement de focaliser sur des projets qui remplissent ces critères de besoin de répondre à certaines nécessités en Ukraine dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, dans le domaine énergétique. Et c'est dans ces domaines-là que l'on va concentrer notre aide également.
Des propos recueillis par Serge Jubin. L'ensemble de l'entretien avec Jacques Gerber est à retrouver sur notre site internet rfj.ch.
Vous écoutez RFJ, il est 18h10.
RFJ, sport.
En football, le FC Bascourt mise sur la continuité. Le club de Première Ligue a prolongé l'Ulzimouchi pour une saison. L'entraîneur conservera donc les rênes de l'équipe la saison prochaine, selon une annonce faite ce matin. Le technicien avait repris la formation Vadez il y a une année. Malgré les difficultés, l'Ulzimouchi estime que les perspectives sont bonnes du côté du club jurassien.
On sait maintenant que y a quand même quelques problèmes financiers qui sont en train de se résoudre apparemment. Ça n'impacte pas vraiment mon travail. C'est clair que par rapport aux joueurs, maintenant le club a mis en place une politique, mais ça fait quand même quelques années qu'on fait ça, où on cherche quand même surtout des joueurs régionaux et assez jeunes, quoi. Donc c'est un peu le cas aussi cette année. Qui dit travailler avec des jeunes et puis des régionaux, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens financiers, quoi. Non, mais dans l'aspect personnel, entraîner à Bascourt, c'est bien. Je reste quand même en Première Ligue pour notre région. C'est un très bon niveau. J'habite à Bascourt, je travaille à Bascourt. Maintenant, au niveau des ambitions, la porte est toujours ouverte d'aller entraîner un peu plus haut. Mais je ne suis pas un professionnel de ça. J'ai une profession à côté. Je m'engage une année après l'autre et puis... On verra bien.
Et le FC Bascourt renouvelle également sa confiance en l'entraîneur adjoint Bruno Constantino. Le derby face au FC Courtetel aura lieu dimanche dès 14h30 à Bascourt.